Bonjour Philippe Askenazy, directeur de recherche au CNRS, professeur d'économie à l'École normale supérieure et l'invité du magazine. L'auteur de Tous rentiers, et c'est paru aux éditions Odile Jacob, réagit à l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis.
Est-ce que c'est véritablement une surprise, l'élection de Donald Trump? Ce qui, personnellement, que modérément. C'est-à-dire, c'était assez intéressant de regarder les programmes. On a beaucoup discuté de ce que pouvaient être les différents scandales qui touchaient les deux candidats, mais assez peu du fond de leur programme. Et notamment du fond du programme d'Hillary Clinton, qui, en soi, est une sorte de condenser les difficultés que les démocrates, la gauche en général, en tout cas le centre-gauche, la social-démocratie telle qu'elle se nomme en Europe, a à appréhender aujourd'hui les difficultés d'une grande part de la population. Et donc dans le programme d'Hillary Clinton, il y avait à la fois une volonté d'augmenter le salaire minimum pour montrer qu'on se préoccupait de ceux qui étaient en bas de l'échelle, et en même temps un discours qui se voulait en partie remobilisateur pour les classes moyennes. Lorsqu'on essayait de voir les types de propositions qu'elle pouvait avoir, il y avait une forme de Made in America qui était extrêmement floue, il y avait la revendication d'une réindustrialisation des États-Unis, mais là aussi extrêmement flou. Et donc on avait un programme politique qui était une sorte de transcription de cette difficulté de faire des propositions qui permettent au plus grand nombre de revenir dans la société, ou tout du moins de ne pas avoir ce sentiment, d'ailleurs c'est plus qu'un sentiment, ce déclin. On parle de shrinking middle class, donc une classe moyenne qui est tirée vers le bas. Finalement, donc, avec comme cela des programmes dits de gauche, en quelque sorte, qui ne sont pas capables d'attirer un électorat, eh bien, on se retrouve avec des conservateurs, et c'est le cas de Trump. Alors, soit on a des conservateurs libéraux, soit on a un conservateur qui se veut là protectionniste, et on retrouve le discours anti-immigré à peu près dans l'ensemble, que ce soit chez les libéraux comme chez les anti-libéraux parmi les conservateurs. Et donc, on se retrouve dans une situation totalement paradoxale où finalement, on a un électorat qui vote pour un candidat, en l'occurrence, mais c'était la même chose d'une certaine manière avec le Brexit, donc qui vote dans une direction qui va accentuer leurs difficultés. Et là, on a quelque chose qui est particulièrement angoissant parce que c'est une forme de fuite en avant, c'est-à-dire que ça ne peut déboucher que sur de plus en plus de populisme. Et le risque qu'il y a en Grande-Bretagne, si ce qui devrait malheureusement intervenir, c'est-à-dire que le Brexit se traduire par une prolongation des difficultés de cette classe moyenne native, c'est-à-dire née en Grande-Bretagne, du nord de l'Angleterre. De la même manière, les États de la Rust Belt américaine vont certainement souffrir de la politique que va mettre en place Donald Trump, surtout qu'il a aussi la majorité au Congrès. Eh bien, ils vont potentiellement se tourner vers des candidats encore plus populistes, voire on peut basculer, c'est ce que l'on voit poindre dans certains États, même proche de nous, au sein de l'Europe, en Europe de l'Est, vers des régimes autoritaires. Et donc on a aujourd'hui, je pense, une responsabilité très importante de la part de la gauche en général pour renouveler son discours et en quelque sorte aider d'éviter de tomber dans un abîme. Donc aujourd'hui, on va voir ce que va donner Trump. Contrairement à ce qu'on peut penser, Trump avait quand même une équipe derrière lui, donc ça ne sort pas de nulle part. On ne va pas nécessairement avoir des grands incompétents. Ils vont faire une politique ultra conservatrice, ultra en faveur des plus riches, et en désignant des corps sociaux, et c'est là où c'est véritablement le plus angoissant, des corps sociaux qui vont être désignés comme ceux qui créent le malheur. Donc ça va être les immigrés, les musulmans, donc assumer une décohésion sociale sans évidemment apporter de solutions aux populations. C'est pour ça que je dis que l'étape suivante est souvent dans une démarche comme ça. Les années 20-30, eh finalement, elles avaient terminé par des dictatures, et on peut avoir des dictatures démocratiques en quelque sorte. C'est typiquement la Russie, et on comprend bien, disons, la proximité d'une certaine manière de vue qu'il y avait entre Trump et Poutine sur ce que doit être la démocratie et comment on doit se comporter par rapport au peuple en général. Donc une situation très angoissante pour les États-Unis et qui risque aussi d'avoir des conséquences en Europe. On a bien vu, Marine Le Pen a été la première à féliciter Trump. Que les Français vont aller dans le même type de direction. Lorsqu'on regarde effectivement aujourd'hui ce qui est le succès du Front National, on retrouve à peu près les mêmes types de populations que celles qui ont voté Trump, c'est-à-dire finalement des populations qui auparavant étaient massivement syndiquées, votaient pour des partis ouvriers en quelque sorte, et qui ne trouvent plus de discours politiques construits en face d'eux. Et on voit bien que ce mimétisme, alors on n'est pas exactement dans le même type de situation, mais lorsqu'on regarde un Emmanuel Macron, finalement c'est un petit peu le même type de perspective qu'une Hillary Clinton, c'est-à-dire une revendication de la modernité, d'aller de l'avant, pas nécessairement résoudre les inégalités, mais de prétendre donner à chacun sa chance. On parle d'égalité des chances, justement, c'est ce que prône Emmanuel Macron, à l'opposition avec ce que pourrait être une égalité réelle des personnes. Donc on voit qu'une partie de la gauche française est tentée finalement par ce qui serait un discours de modernité qui sauverait la gauche. Et puis d'un autre côté, des partis populistes de droite et une partie de la droite dite de gouvernement qui tend à adhérer à un discours qui était celui que tenait le UKIP en Grande-Bretagne ou que tient Trump. Peut-être une des différences qui modérer, disons, les inquiétudes que l'on peut avoir d'une victoire, par exemple, de Marine Le Pen, c'est que Marine Le Pen est déjà dans le système. Et lorsqu'on regarde, que ce soit Trump ou Nigel Farage, ils étaient hors système. Et là, elle, ça fait depuis des décennies qu'elle est héritière elle-même d'un horizon politique. Et donc, il y a moins cet aspect, en quelque sorte, de nouveauté et de prétention que l'on peut nécessairement renverser le système parce qu'elle a été mise à l'intérieur du système. Ce qui n'empêche qu'il y a une porosité des discours qui est extrêmement inquiétant et que dans une situation de très forte abstention potentielle, on peut avoir un accident majeur également en France et puis dans d'autres pays de l'Europe continentale. Donc, c'est une période très sombre, mais qui invite vraiment à prendre ses responsabilités aujourd'hui et avancer. Et je pense que ces responsabilités, elles doivent être prises par tous, et en particulier par ce qu'on appelle les élites, en quelque sorte, qui sont extrêmement passives aujourd'hui et qui regardent passer les catastrophes les unes après les autres en tenant un discours de méthode couée que finalement ça ne va pas nous arriver chez nous et sans vouloir en fait se poser les vraies questions, les vrais problèmes et finalement se préoccuper effectivement de la population. Alors je ne sais pas si les élites se coupent des chercheurs, c'est-à-dire qu'on est dans une situation où le monde de la recherche globalement est en partie écrasé par la mise en œuvre d'un système de plus en plus concurrentiel. On met la concurrence entre les chercheurs, on met en place la précarité, il faut chercher des financements, etc. Ce qui fait qu'une grande partie de mes collègues en sciences humaines et sociales et en sciences dures, finalement, sont sur cette dynamique de production en quelque sorte, et moins, non pas d'action, mais de volonté d'influer sur ce qui peut être les idées, les débats d'idées, la décision publique. Ce qui fait que vous avez, par exemple, chez les économistes, une infime minorité qui participe au débat public. Et au sein de cette infime minorité, eh bien, effectivement, un certain nombre d'acteurs, même les médias, le fait même qu'un grand nombre des principaux médias français soient détenus par un petit nombre de milliardaires et pas neutre sur le fait qu'il y a certaines personnes qui sont plus fréquemment mises en avant dans le monde médiatique et qu'on garde encore quelques voix en quelque sorte discordantes pour jouer un pseudo-pluralisme. Donc il y a finalement peu au sein du monde des universitaires, peu qui essayent d'apporter des éléments de compréhension pour le public ou pour le décideur, alors qui essaye ou qui y arrive. Et donc, lorsque je parlais des élites, je mettais aussi finalement le monde académique, le monde intellectuel, où il y a un gros effort à faire, et pas uniquement les économistes, les sociologues, les historiens, que l'on entend bien moins que ce que l'on pouvait entendre il y a, mettons, 3 décennies, par exemple, aussi réinvestissent le champ du débat. On doit prendre, en quelque sorte, nous aussi, nos responsabilités. Quant aux élites elles-mêmes, à force d'électrochocs, enfin, les élites politiques, en quelque sorte, à force d'électrochocs, peut-être elles peuvent se dire bon, ben, il va falloir qu'on change nous-mêmes notre discours et on va devoir avoir besoin d'avoir de nouvelles analyses, de nouveaux éléments de diagnostic pour apporter des solutions. C'est pas de la politique politicienne, c'est véritablement remettre notre société dans une direction de progrès social le plus partagé.
On va parler de tous rentiers. Ça, c'est un titre marketing très provocateur.
Alors, est-ce que c'est un titre marketing? Pas tant que cela. Je l'ai parfaitement assumé. Alors, effectivement, ça a été discuté avec l'éditrice. Alors, c'est un tous rentier avec un point d'exclamation et puis un sous-titre pour une autre répartition des richesses. Alors, pourquoi cela? Parce que le mot rentier est extrêmement... Enfin, rente, plutôt, est extrêmement utilisé en économie, quel que soit le regard que l'on peut avoir. J'ai même donc une certaine partie de mes collègues que l'on dit être néoclassiques qui, lorsque ils regardent un modèle de la présence d'un dans une entreprise, par exemple, voit que ça permet aux salariés d'obtenir une légère rémunération supplémentaire, il parle de rente ouvrière. Donc, vous voyez, ce n'est pas uniquement la rente financière ou la rente foncière, on emploie ce mot pour tout ce qui est la capacité de grappiller sur l'autre. Et ce que je développe dans l'ouvrage, c'est que dans cette quelque sorte, non pas lutte des classes, mais lutte permanente pour la rente, eh bien, une partie des acteurs économiques ont été en capacité de capter une part de plus en plus significative des rentes, alors que le plus grand nombre voyait sa part décliner de manière très significative. Et donc, mon appel, d'une certaine manière, c'est de réarmer le travail et de probablement aussi affaiblir une part des outils qu'ont les capitalistes pour que tout le monde ait une part de rente. C'est un petit peu cette idée de tous rentiers. Donc c'est à la fois provocateur, mais je m'adresse surtout, d'une certaine manière, aux économistes libéraux, néolibéraux, néoclassiques, qui souvent voient justement dans le fait que des salariés obtiennent un petit plus un obstacle pour la performance économique, pour la compétitivité, etc. C'est là où on peut revenir à la problématique de qu'est-ce qu'est le travail aujourd'hui et finalement dénoncer le fait qu'on a naturalisé les inégalités en disant qu'on était face à des progrès technologiques qui bénéficiaient à, par exemple, les créateurs et qui, au contraire, n'apportaient strictement rien à beaucoup de métiers manuels et des métiers féminins de service aux personnes et que tout cela justifierait les inégalités. Et ce que je développe dans l'ouvrage, c'est que ce discours est fallacieux parce que, typiquement, c'est justement dans ces métiers que l'on dit être peu qualifiés, il y a eu une très forte montée en compétences, en exigences, et donc ils apportent à la prospérité et à la création de richesses. Donc c'est même pas d'une certaine manière une rente qu'ils capteraient, mais plutôt une forme de rémunération juste par rapport à ce que est le rapport global à la société. Donc regardez le monde du travail, non pas de manière figée telle que pouvait être sa photo il y a 3-4 décennies, mais véritablement reprendre globalement le diagnostic, quitte à aussi, c'est un travail là pour le coup des chercheurs en sciences sociales, à revoir l'ensemble des catégories, à revoir les statistiques. Et un exemple que je trouve particulièrement frappant, c'est le cas des concessionnaires automobiles. Lorsque vous achetez une automobile, vous achetez désormais souvent une voiture plus un crédit. Donc l'essentiel du travail est fait par le salarié de la concession automobile. Mais lorsqu'on regarde tels que sont construits aujourd'hui les chiffres de productivité, eh bien, le fait d'avoir vendu le crédit n'est pas mis à l'actif de la concession, et donc finalement du salarié de la concession, mais est mis à l'actif de la filiale bancaire du groupe automobile.
Philippe Askenazy, auteur de « Tous rentiers » et s'est paru aux éditions Odile Jacob, est l'invité du magazine.
Et donc, lorsqu'on regarde comme cela, on s'aperçoit qu'effectivement, il n'y aurait pas plus de richesses créées dans les concessions automobiles, et au contraire, une productivité absolument monumentale dans le secteur de la finance et dans ses filiales financières. Donc, c'est aussi un travail en fait, de fond pour remettre en évidence que finalement, une grande partie de ceux que l'on dit être déclassés de manière naturelle, etc., et qui finalement votent effectivement populistes, en fait, occupe, je parle dans l'ouvrage de criticité, occupe des fonctions donc critiques absolument essentielles au fonctionnement de nos économies. Et c'est à travers eux que se crée la richesse. Et donc, il s'est légitime, d'une certaine manière, même dans un point de vue purement libéral, que l'on s'attaque à une réduction des inégalités, même primaires, c'est-à-dire ce que vous touchez au bas de votre fiche de paye, et que ça ne soit pas uniquement une prétention de réduire les inégalités à travers la redistribution, c'est avant tout déjà reconnaître d'une certaine manière la valeur de chacun.
Un revenu universel, un salaire de base, c'est une rente?
Alors ça pourrait être vu comme une rente, ça sera surtout vu comme une forme d'assistanat. Et je crois que justement ce que je viens de développer sur la question d'être rémunéré à sa valeur est le point qui montre la faiblesse de l'idée de revenu universel. Donc je suis fondamentalement contre le revenu universel parce que finalement c'est quoi? C'est accepter une société capitaliste à nu et on va mettre une sorte de super outil, alors même pas super outil, une sorte d'outil pour solde de tout compte de redistribution. Or, fondamentalement, je pense que c'est quelque chose de totalement différent d'être payé 1000 euros en bas de sa fiche de paye. Sa valeur, c'est une partie de sa condition de travail, d'une certaine manière. Ce que l'on touche, ce que l'on gagne, c'est une partie de sa reconnaissance. C'est fondamentalement différent de toucher 500 euros au nom de « il faut être compétitif, libéral, etc. », plus 500 euros de revenus universels. Ce n'est pas la même vision de la société. Et je pense qu'il y a là une erreur de la part, notamment des Verts, qui typiquement prônent, et une partie de la gauche française prône un revenu universel, qui est fondamentalement un outil libéral de solde de tout compte pour laisser le capitalisme à ses dérives et tel qu'il est aujourd'hui. Donc c'est un renoncement fondamental à modifier les rapports de force au sein de nos sociétés. Donc voilà, c'est typiquement, vous voyez, un questionnement, le type de mesure qui, je pense, éloignera les électeurs des partis qui les prôneront, sauf les partis de droite. Les partis de droite libéraux, c'est tout à fait dans leur logique. Et historiquement, c'est eux qui ont prôné ce type de flat protection sociale, de la même manière qu'on fait une flat tax, c'est-à-dire on simplifie, on fait des choses simples, on ne touche à rien des mécanismes de marché.
Aujourd'hui, est-ce que vous prenez en compte que notre monde est en mutation? Je vais le résumer comme ça, il se numérise de toutes parts.
Oui, alors est-ce qu'on est vraiment dans un schéma où aujourd'hui, numérisation, dans un monde qui serait en bouleversement? Je crois que ça fait depuis en fait deux siècles, depuis le début des révolutions industrielles, qu'il y a des bouleversements du monde du travail. Et le travail en lui-même est sans cesse modifié. Mais lorsqu'on regarde l'horizon qui est devant nous, de qu'est-ce que vont être les emplois dans 30-40 ans, eh bien, les horizons d'emploi vont être partiellement dans un monde numérisé, mais ça va être surtout des services aux personnes face à une population vieillissante, ça va être des métiers liés à la transition énergétique, et donc on n'est pas du tout dans une perspective de long terme où on aurait tout un pan de la population qui échapperait aux transformations des emplois. Je crois qu'au contraire, une des manières potentielles de sortir dans la nasse dans laquelle on est aujourd'hui, c'est d'accélérer ce processus de répondre aux besoins des populations et donc répondre à cette nécessaire adaptation de nos économies à l'enjeu du changement climatique et nécessaire adaptation aux enjeux démographiques. Et donc, ça permettrait de remettre des perspectives de carrière à une grande partie de la population. Et tout cela peut être aussi à travers une idée de qualité. Ce n'est pas uniquement du low cost. Ces types d'emplois ne sont pas nécessairement des emplois qui doivent être mal payés pour des peu diplômés. Non. Pour nos seniors dépendants, il faut des personnes, au contraire, qui aient des grandes compétences. Et si on veut réussir la transition énergétique, on a aussi besoin de professionnels.
Merci à Philippe Askenazy, auteur de « Tous rentiers », essai paru aux éditions Odile Jacob, pour sa libre participation à ce magazine réalisé avec le concours de l'Institut d'études avancées de Nantes.
Voilà, on peut aussi basculer assez vite et sortir de ce mirage, je pense, d'un tout numérique qui ferait que certains deviendraient inutiles ou que d'autres seraient absolument essentiels. Ce n'est pas la première fois que l'on présente ça. Il y a exactement 50 ans, vous aviez eu donc un demi-siècle, une vague de rapports aux États-Unis, en Europe, etc., ou surtout ce qu'on appelait l'automation, en fait, disons une robotisation, voilà, remplacement de l'humain par la machine. Et déjà, à cette époque-là, on annonçait qu'il y aurait plus besoin d'une grande partie de la population au travail qui serait nécessairement déclassée. C'est pas ce que l'on a vu après coup. Donc, on peut être Cassandre sur certains aspects, mais pour d'autres, non. Et au contraire, il faut être en quelque sorte potentiellement volontariste. Et vous voyez bien que lorsqu'on se projette sur ce que sont les besoins de nos économies à moyen long terme, eh bien, ça donne des horizons qui permettent de construire des alternatives pour ceux qui sont aujourd'hui, qui se considèrent et qui sont menacés de déclassement ou en situation de déclassement.
Pour conclure, pas plus intérêt hier qu'aujourd'hui que demain ?
Pas plus atterré. Non, c'est plutôt de l'inquiétude que d'être atterré aujourd'hui. Voilà. C'est-à-dire que je pense qu'au fur et à mesure que l'on avance, on voit bien que le choc du Brexit, puis le choc Trump, font vraiment craindre le pire. Donc voilà, il est temps, je pense, que tout le monde se mette enfin à réagir. Donc voilà, d'une situation effectivement d'économiste atterré de ce qu'on pouvait avoir mis en place comme politique en Europe, notamment après la crise de 2008. Cette fois-ci, c'est vraiment peur, et surtout lorsqu'on a des enfants. Voilà, c'est dur de léguer à ses enfants tel monde.